Bonjour Camille.
Bonjour,
Alors,
merci de m'accueillir à nouveau.
on a commencé à parler des émotions lundi dernier, donc on va continuer sur ce thème-là, me semble-t-il.
Oui, exactement.
Voilà, nous vous écoutons.
Voilà, donc la semaine dernière, je vous ai parlé des émotions. Je vous ai dit qu'est-ce que c'était qu'une émotion, à quoi ça servait. Et puis j'ai parlé un petit peu plus particulier, spécifiquement de la tristesse. Et donc aujourd'hui, je vais continuer avec la tristesse. Je vous parlerai un peu de la colère aussi. Enfin, je vous parlerai du concept d'intelligence émotionnelle. Alors, quand on s'est quitté la semaine dernière, il y a Luc qui m'a posé une question, qui m'a dit, voilà, moi j'ai ma sœur qui est décédée il y a quelques années, que j'ai perdue il y a quelques années, et je continue à être triste. Il y a cette tristesse qui reste. Comment faire? Donc, je lui ai un peu répondu, mais en fait, ça tombe bien. C'était justement ce que j'avais prévu de vous dire aujourd'hui. C'est cette tristesse, comment la gérer? Voilà. Quel est son bon usage? Alors, il y a quelque chose, c'est que nos émotions, elles ont tendance à nous déranger. De peur qu'elles nous submergent ou qu'elles nous anéantissent, nous prenons bien soin de les refouler et de nous réfugier dans le silence. Et pourtant, ces émotions, elles nous révèlent un message, un besoin à satisfaire ou un événement à vivre. Quand l'émotion est reconnue et exprimée, l'énergie intérieure circule et il est bon de ne pas l'interrompre. Mais comme cette tristesse, elle est par nature douloureuse, on a tendance à l'éviter, à la taire. Or, ça c'est très important, s'empêcher d'éprouver de la tristesse, c'est figer sa souffrance à l'intérieur de soi. Une tristesse qui ne peut être pleurée va rester bloquée pendant des années. Voilà, autrement dit, quand une douleur est complètement accueillie, elle se transforme, alors que ce à quoi on résiste persiste. Voilà, le risque, c'est sûr, c'est de la voir ressurgir après avoir cheminé à bas bruit, si jamais on ne l'a pas suffisamment accueillie. Elle peut ressurgir sous forme d'un état d'âme plus durable ou une humeur, et ça peut même évoluer en dépression pathologique. Donc, gérer la tristesse, c'est l'accueillir, c'est se donner le temps et le droit de la manifester, c'est laisser jaillir les larmes qui libèrent et procurent l'apaisement, c'est la dire. Pleurer permet d'expulser les toxines libérées par la peine. Consentir à la tristesse, c'est accepter une certaine vulnérabilité, et il arrive que pour les personnes qui craignent leur sensibilité, cette tristesse se transforme en colère. Les émotions concentrent alors leur énergie sur les personnes. Ces personnes, pardon, concentrent alors leur énergie sur les personnes ou l'événement qu'elles considèrent responsable de leur frustration, et elles peuvent l'attaquer en pensée, en parole ou en acte. Ce détournement conduit à perdre contact avec leurs vrais besoins. Donc, comment nous pouvons accompagner la tristesse de nos enfants? Donc pour accompagner la tristesse de nos enfants, il suffit simplement de laisser de l'espace aux pleurs et à la parole quand c'est possible pour eux d'exprimer. Cela sera d'autant plus naturel que nous, parents, adultes, avons été autorisés à pleurer quand nous étions enfants. Si au contraire la tristesse était une émotion interdite dans le code familial, parce que, par exemple, elle entrait en résonance avec un chagrin non liquidé des parents, elle risque alors de nous figer dans la réprobation ou le déni. Dans ce cas, nous chercherons plus volontiers à faire cesser les pleurs le plus rapidement possible, sans prendre en compte ce que l'enfant a à dire ou ressent. Un enfant qui ravale ses larmes de chagrin pour faire plaisir à son papa, si par exemple il entend qu'un garçon, ça ne pleure pas, il va ravaler ses larmes, ou pour sinon ne pas faire de la peine à sa maman, eh ben, cet enfant il va conserver sa douleur au profond de lui, majorée d'une pincée de solitude et de non-adéquation à ses sentiments vrais. Donc il aura peut-être l'air d'un vrai mec, comme dit Isabelle Filioza, la psychologue Isabelle Filioza, mais une fois devenu adulte, il est probable qu'il se sera endurci au point de ne pas comprendre les larmes de sa femme ou de ses enfants, et il ne saura plus rire ou s'amuser sans par exemple un verre de vin. Donc les larmes qui restent enfermées, elle bloque le passage vers l'amour. Pourquoi serions-nous dotés de larmes si elles étaient inutiles ? Les pleurs sont les témoins du travail de réparation de l'organisme après une perte, écrit Isabelle Filioza. Nous savons combien cela fait du bien de pleurer. De pleurer dans les bras d'un ami, d'un parent, de quelqu'un qui sait écouter les larmes sans les arrêter, qui sait accueillir sans juger, ni chercher immédiatement à en connaître la cause, sans conseiller, sans baisser les yeux. Plutôt que de dire « ne pleure plus, ce n'est pas grave, ça va s'arranger », on peut encourager et rejoindre l'enfant ou la personne dans sa peine par des mots plus simples. « Tu es vraiment triste de cela. » »« Oui, pleure tant que tu as du chagrin. » Laissons-nous émouvoir par le chagrin de nos enfants tout en l'accompagnant, qu'il s'agisse d'une perte ou d'un changement. Cela lui permettra, comme pour toutes les émotions, de l'identifier, de la vivre, non pas pour se montrer fort, mais pour le devenir peu à peu réellement de l'intérieur. Alors je voudrais faire maintenant la distinction entre la dépression et la tristesse. Voilà, la dépression n'est pas la tristesse. La dépression, c'est une atmosphère qui s'installe, c'est un état qui dure depuis plusieurs semaines, dans lequel l'énergie vitale est enfermée. C'est une pathologie, c'est ce qu'on appelle un trouble de l'humeur. Si la dépression prend la couleur de la tristesse, elle n'est pas à ce moment-là une force libératrice qui guérit de la perte, comme elle, mais plutôt une non-force, un blocage d'émotions enchevêtrées qui peut conduire à la mort psychique et ultimement à la mort par suicide. Cette dépression, elle indique un problème, un drame non résolu, une grande détresse non entendue, et elle doit absolument être prise en charge par des compétences médicales et psychologiques. Alors chez l'enfant, elle est plus difficile à cerner, car elle se dissimule sous des vêtements variés et elle peut passer inaperçue et être dissimulée. Ça peut prendre, par exemple, la forme d'une sagesse excessive, d'un conformisme ou alors d'une agitation. Quand un enfant est trop sage ou trop brillant, peu de parents s'inquiètent. Or, un enfant, c'est vivant. S'il est trop docile ou trop sage, c'est peut-être qu'il réprime une part de la vie qui est en lui. Pour Isabelle Filioza, un adolescent qui fait grise mine tous les soirs, c'est assez facile de déceler qu'il peut être triste, mais chez le jeune enfant, la dépression est souvent masquée et peut prendre la forme d'hyperactivité, d'agitation plus ou moins violente, aussi bien que de docilité et de sagesse excessive. Les symptômes de la dépression chez l'enfant, ça peut être par exemple qu'il ne rit pas, ne s'intéresse à rien, qu'il s'ennuie. Ça peut être aussi qu'on le dit sage, presque trop sage. Ça peut être qu'il est agité, qu'il a des problèmes de sommeil, d'alimentation. Ça peut être des troubles du comportement. Ça peut être un besoin de stimulation violente, d'adrénaline, de films ou de dessins animés violents. Ça peut être aussi un échec scolaire, un désinvestissement des apprentissages scolaires ou un surinvestissement. Ça peut être qu'il se plaint souvent de fatigue. Ça peut être aussi des maladies à répétition. Voilà, ça peut prendre vraiment des formes très variées. La dépression, contrairement à la tristesse, est donc une maladie, mal à dire, et doit donc être prise en charge et soignée. Alors que la tristesse est une émotion qui participe à l'équilibre psychique de l'être humain. Voilà, maintenant je vais vous parler un petit peu de la colère. Alors avec une petite histoire pour introduire. Donc je suis au supermarché, dans la queue de la caisse, et derrière moi il y a une maman avec un petit de 3 ans. L'enfant aperçoit un sachet de bonbons, il le réclame à sa mère, qui refuse, et là l'enfant éclate en hurlement. Il fait ce qu'on appelle une belle colère. Le petit de 3 ans ne se met pas en colère pour agacer sa mère. c'est qu'il ne trouve que ce moyen de laisser paraître sa déception, sa frustration. Alors, pouvons-nous analyser la colère ? La colère, c'est tout d'abord une émotion qui, comme toutes les émotions, n'est ni bonne ni mauvaise. Ce qui va être bon ou mauvais, c'est ce que je vais en faire de mon émotion. La colère, c'est une émotion de réparation face à la frustration ou à l'agression blessante. Elle restaure l'intégrité de l'organisme face au manque. Elle est au service du sentiment d'intégrité et d'harmonie entre les humains. La colère saine dit un besoin et une demande de réparation. Cela donne à penser. Revenons au petit garçon du supermarché. Sa colère est l'expression d'un désir. Si moi, parent, je réponds avec violence, je vais signifier à l'enfant que sa colère est malvenue ou dangereuse. Or, l'enfant a le droit de désirer. Pour lui, ses bonbons sont indispensables, il les veut. Si on ne les lui donne pas, il se sent atteint dans son intégrité, dans sa personne. Il va être à ce moment-là important pour lui d'être entendu dans l'expression de sa colère. La maman peut prendre son enfant dans ses bras ou se mettre à son niveau, le serrer contre elle, et lui dire qu'elle comprend bien qu'il est mécontent de ne pas avoir de bonbons. Voilà, que cela le fâche beaucoup. Elle le comprend, elle le laisse s'exprimer. Mais lui dire que, voilà, aujourd'hui, elle ne va pas les lui acheter. La maman continue de consoler son enfant jusqu'à ce que, entendu, reconnu, l'expression de l'émotion permette à l'enfant de se construire et d'accepter la frustration. Si vous savez accueillir l'expression de sa colère, l'enfant va apprendre sur lui-même et sur les autres. Il va apprendre qu'il peut désirer sans obtenir forcément. Son identité et sa puissance ont des limites. Mais aussi, il n'est pas détruit par le manque. Il n'a pas besoin de cela pour exister. Écouter une émotion ne signifie pas donner satisfaction sur tout. C'est permettre à l'enfant d'accepter la frustration sans se diminuer, de guérir de ses blessures sans se dévaloriser, de se relever et même de grandir des inévitables confrontations avec le réel. L'enfant qui se voit sans cesse refuser ce qu'il demande et interdire la colère entend le message « tu es impuissant ». A contrario, l'enfant à qui on cède tout entend « tu es tout puissant ». Et l'enfant qui est entendu dans sa colère construit un juste sentiment de puissance sur sa propre vie. La colère donne donc la force de s'affirmer, de dire non, de se sentir soi. Enfin, la colère vise à rétablir le lien. Tu m'as refusé quelque chose est cassé dans notre relation. Je me mets en colère pour que tu mesures à quel point ce lien est important pour moi. C'est donc une invitation à conserver ce lien, à rester présent, attentif. Un exemple pour terminer. Donc, je reçois dans mon cabinet un petit garçon qui vient justement parce qu'il fait énormément de colères qui sont épuisantes pour sa famille. Alors que sa maman m'en parle, le garçonnet est à côté, il construit une maison en cube et il laisse tomber dessus, de haut, d'autres cubes. Et là, la maison explose, il y a des morceaux tout autour de lui. Je remarque qu'il a fait exploser sa maison, tout comme lui-même explose quand il est en colère. Et l'enfant crie « Oui, je suis très en colère !» Voilà, nous travaillons ensemble sur les raisons de cette colère. Et deux séances plus tard, l'enfant construit de nouveau une maison et laisse tomber des cubes à côté de la maison. Je le félicite. « Tu as trouvé un moyen d'exprimer ta colère sans tout faire exploser ?» Et l'enfant acquiesce, très content, et la maman confirme. Voilà, donc dans une dernière partie, je vais vous parler aujourd'hui du concept d'intelligence émotionnelle. Donc les émotions, elles nous accompagnent au quotidien. Parfois, elles nous submergent et on ne sait forcément comment réagir. Est-ce que pour autant, il faut les taire, en faire abstraction, les contrôler à tout prix ? A priori, non, surtout pas. si on se fie à ce concept d'intelligence émotionnelle. Donc le concept d'intelligence émotionnelle est lié à une avancée considérable de la psychologie ces dernières années, et par conséquent de la pédagogie. On parle aussi d'intelligence multiple. Tout peut se résumer ainsi. L'intelligence est bien plus que connaître beaucoup de choses. En 1993, dans son livre « Intelligence multiple, la théorie en pratique », Howard Gardner a introduit l'idée selon laquelle les indicateurs d'intelligence, comme le quotient intellectuel, ne reflètent pas entièrement l'intelligence des personnes. En effet, ceux-ci ne prennent en compte ni l'intelligence interpersonnelle, qui est la capacité à comprendre les intentions, les motivations et les désirs des autres personnes, ni l'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire la capacité à nous comprendre nous-mêmes, à reconnaître nos sentiments, nos peurs et nos motivations. Cet ensemble de compétences est donc ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, parmi lesquelles nous retrouvons notamment le contrôle de soi, l'enthousiasme, l'empathie, la persévérance et la capacité à s'automotiver. La bonne nouvelle est que ces compétences ne dépendent pas uniquement du caractère ou des gènes, elles peuvent aussi s'apprendre et se perfectionner tout au long de la vie en utilisant les méthodes adéquates. Donc, comment apprenons-nous à contrôler nos émotions? Selon les dernières découvertes, les émotions ne sont pas purement immatérielles. Elles ont un effet biochimique. Notre cerveau utilise une méthode simple pour enregistrer des souvenirs émotionnels avec beaucoup de force. Les systèmes d'alerte neurochimique, qui préparent l'organisme à lutter ou à fuir face à un danger. Ils enregistrent, ces systèmes d'alerte, ces moments avec une grande intensité dans la partie la plus importante du cerveau, l'amygdale, en sécrétant des hormones. Voilà pourquoi nous ressentons des émotions. Nous gardons des traumatismes ou des souvenirs émotionnels avec beaucoup d'intensité, sans savoir pourquoi. Notre apprentissage émotionnel se produit principalement lors de la petite enfance et reste enregistré à vie, car il précède l'apprentissage intellectuel. Le rôle des émotions a longtemps été sous-estimé. Elles sont pourtant très importantes pour faire usage de la raison. Entre le ressenti et les pensées, l'émotion guide nos décisions en travaillant avec le cerveau rationnel pour nous permettre ou nous empêcher de penser. Toutefois, une autre grande découverte a montré que la raison peut nous apprendre à contrôler les émotions en les traitant et en les empêchant de déborder afin que le cerveau émotionnel ne prenne le contrôle total de notre esprit. Donc cette intelligence émotionnelle, c'est, vous l'aurez compris, une véritable qualité. Durant des années, voire des siècles, on pensait que contrôler ses émotions revenait à les réprimer, comme si elles étaient négatives. Mais réprimer ses émotions est une erreur. Les émotions refoulées cherchent toujours à remonter. De nombreux déséquilibres et souffrances émotionnelles naissent de cette manière incorrecte de traiter les émotions, c'est-à-dire en les excluant du psychisme humain. Au contraire, l'intelligence émotionnelle prétend apprendre à gérer les émotions en leur laissant libre cours, sans pour autant les laisser déborder. Il s'agit d'avoir la possibilité de choisir la manière de les exprimer. Prenons l'exemple d'un cheval sauvage. Si ce cheval est bien entraîné, il peut devenir un champion potentiel. Hors de contrôle, c'est une bête furieuse. Il en va de même pour nos émotions. Comment définir l'intelligence émotionnelle? C'est la capacité à s'automotiver, à poursuivre les efforts malgré les frustrations possibles, à contrôler ses impulsions, à savoir attendre les récompenses, à réguler ses propres humeurs, à éviter de laisser l'angoisse interférer avec ses facultés rationnelles, à ressentir de l'empathie et à faire confiance aux autres. Il est très important également d'apprendre à tirer parti des émotions négatives. La mauvaise humeur, par exemple, a aussi son utilité. L'énervement, la mélancolie ou la peur peuvent être source de créativité, d'énergie et de communication. La colère peut être une source intense de motivation, surtout si elle provient d'un besoin de réparer une injustice ou un abus. La tristesse, quand elle est partagée, peut rapprocher des personnes. Tandis que le sentiment d'urgence, issu de l'anxiété, pour autant qu'il ne nous afflige pas, peut encourager la créativité. De nos jours, l'intelligence émotionnelle n'est pas seulement importante pour nos relations personnelles, c'est aussi une qualité très recherchée par les entreprises et les organisations. Elle est la base d'un leadership sain au travail et d'une vie sociale et personnelle saine. Finalement, et je terminerai avec ça, les émotions bien contrôlées contribuent à l'intelligence.
Alors Camille, nous venons de recevoir une question par SMS. Il s'agit d'une question d'Olivia qui demande « Bonjour, comment apprendre à un enfant de 11 ans à contrôler ses émotions ? Que faire concrètement ? Merci. »
Alors merci beaucoup Olivia pour cette question. Donc je ne sais pas si vous avez entendu la première émission la semaine dernière, mais je vous invite à la réécouter parce que du coup je réponds en partie. Donc ce que je disais la semaine dernière, c'est que la première façon d'aider son enfant à gérer son émotion, c'est déjà d'être soi-même à l'écoute de sa propre émotion personnelle en tant que parent, en tant qu'adulte, de l'identifier, de mieux la gérer, voilà, de se connaître suffisamment soi en fait, et d'écouter en soi comment résonne l'émotion de son enfant. Voilà, et puis soi-même déjà en accueillant ses propres émotions et en les gérant le mieux possible, là déjà l'adulte va aider son enfant dans sa propre manière de gérer ses émotions. Après, deuxièmement, c'est sûr que il est nécessaire que l'adulte soit aussi à l'écoute des émotions de ses enfants, voilà, qu'il apprenne à les repérer, les accueillir, les comprendre. Donc en fait, c'est déjà une attitude d'accueil. Voilà. Apprendre à son enfant à gérer, ça va déjà être l'accueillir. Et être attentif à qu'est-ce qui fait peur à mon enfant, qu'est-ce qui l'attriste, qu'est-ce qui le réjouit, qu'est-ce qui le met en colère. Selon son tempérament, sa sensibilité. Et puis, après, ça va être attentif à l'interaction qu'il y a entre notre propre émotion et celle de notre enfant. Et alors concrètement, donc vous réécouterez toute l'émission, mais donc concrètement, il va s'agir d'accueillir l'émotion de son enfant, de l'écouter, de que notre enfant se sente autorisé à l'exprimer, à parler. Et alors pour ça, il y a des petits moyens concrets. Donc quand l'enfant il est tout petit, on peut soi-même mettre des mots sur ce qu'il ressent. Si on voit qu'il est en colère, et ben on peut lui dire « Je vois que tu es furieux parce que ton petit frère a déchiré ton dessin. » Vous voyez, on met nous-mêmes les mots sur l'émotion présumée de notre enfant. Ça l'aide à l'exprimer. Et puis quand il est plus grand, donc on va carrément l'aider à verbaliser en lui posant des questions pour que ce soit lui-même qui le dise. Par exemple, ça va être « Qu'est-ce que cela te fait ?» Alors on voit que, par exemple, il est triste, notre enfant. On dit « Qu'est-ce que cela te fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce que tu te sens ?» Pour l'aider lui-même à s'écouter, à se poser, à accueillir qu'est-ce qui se passe en lui et à pouvoir le formuler, le verbaliser. Plus il va être grand, plus il va pouvoir le verbaliser. Et simplement avec cet accueil, cette empathie, cette attention à lui, cette écoute vraiment qui ne réprime pas et qui est très bienveillante et aimante, et ben l'enfant petit à petit va apprendre à se connaître, à comprendre pourquoi régulièrement il se met en colère dans tel type de situation, voilà, pourquoi telle chose le rend triste. Je ne sais pas si ça répond bien, mais voilà, je vous invite à réécouter l'émission de la semaine dernière si c'est incomplet.
Voilà, merci Camille, merci Olivia pour cette question. Alors je vais rebondir là-dessus. Finalement, est-ce que quand un enfant n'apprend pas à gérer, je dis bien gérer, pas contrôler ses émotions, est-ce que ça donne ensuite un adulte hyper émotif? ou hypersensible. Est-ce que d'ailleurs c'est la même chose, être hyper émotif et hypersensible, et du coup d'où ça peut venir si ça ne vient pas d'un problème de gestion des émotions qu'on n'aurait pas appris pendant l'enfance?
Alors oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas si ça va donner quelqu'un de... Oui, ça peut donner un adulte qui ne sait pas contrôler ses émotions, mais ça peut se traduire de différentes manières. Plus une personne, et donc même un enfant, a un tempérament hyper émotif, hyper sensible, parce que l'émotion, c'est l'expression d'un ressenti, donc on peut utiliser un peu le même terme, plus il est hypersensible, plus il va devoir apprendre à gérer ses émotions qui le débordent et ses ressentis. Et plus le rôle du parent est important. Parce que si le parent réprime les émotions, l'empêche de les exprimer, l'empêche même de les ressentir, en lui disant « tu ne dois pas être en colère », par exemple, comme si c'était pas son droit d'être en colère, eh ben, plus ça va faire des adultes qui vont avoir des difficultés relationnelles, je dirais plus ça. Soit des personnes qui vont être dures, qui vont être... parce qu'en fait, elles ont contenu leur émotion. Soit alors, ça peut devenir des personnes dépressives. Si par exemple, étant enfant, elles étaient tristes et on leur empêchait d'être tristes, eh ben, du coup, cette tristesse, elle va comme se cristalliser et ça peut les envahir d'une manière que ça devienne pathologique. Après, bon, voilà, ça va se décliner différemment en fonction du tempérament, de l'émotion et de la manière dont ça a été accueilli par les parents et dont l'enfant a pu se construire. Mais c'est sûr que ça peut générer différents troubles individuels et relationnels.
Et donc, quand ça n'a pas été appris et géré pendant l'enfance, quand ça arrive, donc ça se répercute à l'âge adulte, il y a une solution pour aider justement les personnes adultes.
Oui, il y a toujours une solution. C'est ce que dit très bien le concept d'intelligence émotionnelle. C'est que cette intelligence des émotions, en fait, c'est pas quelque chose qui est dans les gènes. Pas seulement. C'est aussi quelque chose qui s'apprend, qui s'éduque. Donc plus on l'apprend tôt, mieux c'est. Mais on a toujours la possibilité, si on décide de faire ce travail sur soi, ce beau travail sur soi à l'âge adulte, d'apprendre à se connaître, à s'écouter soi-même, à gérer ses émotions. C'est tout à fait possible.
Eh bien, on va rester là sur cette conclusion pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Camille.
Merci beaucoup de m'avoir accueillie.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.